France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, une conversation littéraire consacrée à la littérature russe autour de deux traductrices, Emma Lavigne et Claire Delaunay, et deux auteurs de légendes, Fiodor Dostoïevski et Vassili Rossman, à l'occasion des traductions des frères Karamazov dans la splendide collection Littéra des éditions Gallmeister et de Le peuple est immortel aux éditions Kalman-Lévy, doyen des éditeurs de la Place de Paris. Emma Lavigne, bonjour. Vous êtes traductrice du russe, vous avez traduit entre autres Zarak, le roi serpent de Vladimir Medvedev, publié en 2019 aux éditions Noir sur Blanc, ou La chute de la ville principale, des films Zozulia, paru en 2020 au Temps des cerises. Vous êtes aussi interprète et vous avez traduit pour les éditions Gallmeister et leur collection Littéra les quelques 1500 pages du roman de Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov. Et Claire Delaunay, bonjour.
Bonjour.
Claire Delaunay, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, chargée de l'enseignement de la littérature russe. Vous êtes vous-même spécialiste de littérature russe du 19e siècle, autrice d'une thèse sur Lev Tolstoï, et vous avez co-traduit avec l'extraordinaire Luba Jorgensen, que les auditrices et les auditeurs de la conversation littéraire connaissent bien, la dernière publication en date des œuvres de Vassili Grossman en France, Le peuple est immortel, paru récemment aux éditions Kalman-Lévy. Tout d'abord, une première remarque, on a l'impression que vous êtes un peu à contre-emploi, toutes les deux, Emma Lavigne et Claire Delaunay. C'est la spécialiste du 19e siècle qui traduit le 20e siècle soviétique de Vassili Grossman et celle qui avait toujours mis en français des textes du 20e et du 21e qui traduit Dostoïevski, Claire Delaunay. Comment se fait-il donc?
Bon, en ce qui concerne Grossman, étant donné qu'on a considéré qu'il avait été l'auteur du Guerre et Paix du 20e siècle, on peut voir une forme de cohérence. Et dans Le peuple est immortel, on peut aussi d'ailleurs sentir la marque de Tolstoï, qui était l'auteur que Grossman avait emmené sur le front, le seul roman qu'il avait emmené qui était Guerre et Paix.
Et alors pour vous, Emma Lavigne, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une aventure pareille? 1500 pages, Les frères Karamazov, le dernier roman de Dostoïevski.
Je ne m'y serais pas lancée si on ne m'avait pas demandé de le faire. Mais je pensais rester dans le 21e siècle et le 20e siècle. Et c'est une proposition qu'on m'a faite.
Une proposition que vous êtes empressée d'accepter ou vous avez réfléchi quand même?
J'ai réfléchi. J'ai pas mal réfléchi. On a besoin de dormir un peu dessus avant d'accepter quand même.
Alors, combien de temps il faut pour traduire Les frères Karamazov de Dostoïevski?
Moi, il m'a fallu 2 ans pour les traduire.
Ah oui, 2 ans?
Oui.
Ouais.
Oui.
Ah oui, c'est pas rien. Non. Alors, on y reviendra un peu dans le détail, mais qu'est-ce qui fait qu'on dit oui ou non? Est-ce qu'on relit le texte? Est-ce qu'on regarde le russe? Est-ce qu'on se dit, est-ce que je vais avoir le temps? Qu'est-ce que ça demande comme rythme? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une question presque physique, matérielle? Ou au contraire, est-ce que c'est le texte en lui-même qui force la décision? Et puis, est-ce que derrière, il n'y a pas quand même le nom de Dostoïevski où on dit non, c'est quand même trop la classe, je veux le faire?
Il y a ça, c'est tentant. C'est-à-dire que ça fait peur de s'attaquer à Dostoïevski. Déjà, en plus, par la face nord, quoi, le dernier, les Karamazov, le plus complet, le plus complexe peut-être. Mais c'est vrai qu'on a du mal à dire non à une proposition comme ça. On a envie de s'y confronter, en fait. Et puis on se dit pourquoi pas, mais j'ai demandé conseil, on m'a poussé aussi un petit peu dans le dos.
Quant à vous, Claire Delaunay, alors vous vous retrouvez embarquée dans l'aventure de la traduction de Vassili Grossman par Luba Jorgensen, on imagine. Elle a été votre enseignante, elle a dirigé vos travaux de master et votre thèse. Et quelle a été votre première réaction quand on vous a proposé de traduire Grossman?
En fait, à ce moment-là, justement, on collaborait sur une nouvelle traduction d'écrits politiques de Tolstoï. Et donc, voilà. On était déjà dans une co-traduction et quand Kalman-Lévy lui a demandé si elle voulait bien revenir pour Grossman, pour ce roman, pour donc compléter cette grosse entreprise de l'éditeur de rééditer les grands romans, les carnets de guerre, les souvenirs et la correspondance de Grossman, elle m'a fait cette proposition et évidemment, voilà, j'ai tout de suite accepté parce que bah, c'est un plaisir d'abord de collaborer avec elle. C'était une expérience de traduction vraiment très riche, ça m'a fait me confronter à une autre écriture que celle de Tolstoï voilà, dont je suis plus familière, effectivement.
Oui, mais en même temps, c'est pas rien, Vassili Grossman. C'est-à-dire que c'est quand même le monde de la Seconde Guerre mondiale. C'est extrêmement précis. En tout cas, quand on lit en français, en ce qui concerne les chars, les mouvements de troupes, les armes, les événements. Enfin, et c'était pas forcément votre monde, même linguistiquement parlant.
Non, en effet, ça m'a demandé pas mal de recherches. Mais bon, une fois qu'on s'est à peu près familiarisé avec les principaux termes, on s'y retrouve assez vite quand même.
Alors commençons par le titre, si vous le voulez bien, Claire Delaunay. Le peuple est immortel, premier roman de guerre publié par Vassili Grossman. Ce titre peut être lu, je crois, de plusieurs façons. La première, c'est que nous sommes d'abord au printemps 1942 et que l'armée rouge vient d'être sévèrement vaincue et recule sur tous les fronts. Donc c'est un peu une façon de dire « le peuple est immortel, on va s'en sortir ». Ça peut vouloir dire ça, mais c'est peut-être aussi une façon d'en appeler justement à une forme d'éternité de l'âme russe et au socialisme soviétique qui est quand même aussi derrière cet effort de guerre et ce roman.
Oui, c'est sûr. Donc, c'est une œuvre de commande, d'une part, il faut le souligner. Hein. Grossman obtient un congé pour écrire ce roman qui lui est donc proposé par le rédacteur du journal de l'Armée Rouge, qui est David Ortenberg. Et c'est certain qu'il a un petit peu cette mission de donner de l'espoir hein, dans un contexte où l'armée soviétique recule et est mise en très grande difficulté. Donc donner de l'espoir et remonter le moral des troupes en montrant l'héroïsme qui peut quand même se manifester dans les situations les plus complexes, en l'occurrence là, dans des situations d'encerclement.
Mais justement, on va voir que Grossman choisit bien son moment, choisit bien ses personnages pour, dans la défaite, donner une vision presque victorieuse quand même de l'armée rouge.
Voilà, montrer que des petites victoires peuvent engendrer de plus grandes victoires et que l'espoir doit rester vivant.
Vous venez de parler d'une commande, mais pourtant, Vassili Grossman avait déjà été nommé correspondant de guerre sur le front. Donc, mi-41, il est déjà sur le front ukrainien, c'est-à-dire sur, au moment de l'effondrement, justement, de l'armée rouge. Et là, il écrit des articles et déjà des chroniques pour ce même journal. Mais il n'a pas l'idée d'en faire un roman.
Alors, est-ce qu'il en a l'idée? Il me semble que c'est vraiment une demande exprimée par le journal de créer donc ce premier roman qui va être en fait le premier roman de guerre sur la Seconde Guerre mondiale. Et il va y avoir ensuite vraiment une grande profusion de textes littéraires pendant la période de la guerre et de l'après-guerre. Mais voilà, ce roman est le premier roman de guerre. Et donc, on lui donne un congé de 2 mois pour justement donner une forme romanesque à tout le matériau qu'il a consigné dans ses carnets. Et donc, on retrouve justement beaucoup de correspondances avec les notes prises pendant les mois qui ont précédé.
Et alors, qui est Vassili Grossman au moment où il écrit ce roman?
Alors, au moment où il écrit ce roman, il est déjà écrivain. Il a déjà renoncé à sa première carrière d'ingénieur chimiste, qui était également le métier de son père. Il est un écrivain tout à fait reconnu, établi. Il est membre de l'Union des écrivains soviétiques, ce qui voilà, lui garantit une situation matérielle tout à fait correcte. C'est un écrivain qui a échappé aux purges de la Grande Terreur, mais dont l'entourage a été touché, notamment donc, l'ex-mari de sa femme, qui était son ami, l'écrivain Boris Kuber, qui a été arrêté et exécuté. Et sa femme donc, a également été arrêtée pour avoir été donc, l'épouse d'un ennemi du peuple. Donc Grossman parvient à la faire sortir de prison et lui n'est pas inquiété. Et quand éclate donc, la Seconde Guerre mondiale, tout de suite, il souhaite s'engager comme volontaire. Et la Seconde Guerre mondiale va, pour lui comme pour beaucoup de soviétiques, redonner du sens dans une lutte, cette fois, non pas contre un ennemi plus ou moins imaginaire, mais contre un ennemi qui menace le pays.
Il faut dire que, pour un peu de contexte historique, il faut dire que Staline et l'Union soviétique avaient été très surpris par le début de cette opération Barbarossa, puisqu'ils avaient signé ce pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie, qui fait que l'URSS n'entend guère que, justement, le 18 juin, si je ne me trompe pas,
22 juin 1941.
Et donc, Grossman est envoyé presque immédiatement sur le front. Il écrit donc des chroniques, c'est ça, qui sont devenues par la suite très célèbres, dans ce journal de l'Étoile Rouge.
Voilà. Donc lui aurait voulu combattre, hein, mais ça lui est refusé en raison de son état physique et on ne peut que s'en réjouir parce qu'il aurait eu peu de chances de survivre s'il avait dû combattre. Mais comme correspondant de guerre, effectivement, il a pu témoigner de ce qu'il observait et recueillir aussi de très nombreux récits. Il avait visiblement une faculté particulière pour inspirer la confiance de ses interlocuteurs qui se confiaient assez volontiers à lui, aussi bien les soldats que les généraux. Et donc, il a voilà, consigné beaucoup de récits qui lui ont été faits et qui ont servi de matière première ensuite pour ses œuvres littéraires.
Alors, le récit de Vassili Grossman cherche à être peut-être le plus réaliste possible, mais est-ce qu'il en a vraiment la possibilité? C'est-à-dire, est-ce que, disons, publié non seulement en URSS, mais en plus pendant la guerre, comporte bien sûr des contraintes?
Tout à fait, oui. Et ces contraintes, donc, elles sont en partie intériorisées. Et avec cette édition, on peut voir aussi le travail de la censure, puisque cette édition restitue un certain nombre de passages qui avaient été coupés, alors soit directement par Grossman, soit par les éditeurs dans un second temps. Ces passages restitués donnent aussi la mesure des contraintes d'écriture de l'époque et des choses qui pouvaient passer et qui ne pouvaient pas passer. Le réalisme de Grossman dans ce texte et dans son œuvre de manière générale tient beaucoup à la justesse des détails qu'il donne et des tableaux qu'il donne à sentir, voilà, aussi bien à voir, à entendre.
Est-ce que l'esthétique du moment ne favorise pas aussi, c'est ce qu'on appelait le réalisme soviétique, ne favorise pas aussi ce type de récit, c'est-à-dire au plus près des choses et des hommes, même si on sait aussi par ailleurs que Grossman était très lu par les soldats eux-mêmes et que donc ce réalisme n'est pas forcément uniquement quelque chose comme ça d'abstrait ou un projet esthétique, mais aussi quelque chose qui fonctionne réellement puisque les soldats eux-mêmes se retrouvaient dans ce que Grossman écrivait.
Oui, effectivement, à l'époque où Grossman écrit, le réalisme socialiste, c'est quelque chose qui ne se discute pas. C'est imposé à tous les écrivains et artistes d'Union soviétique. Et Grossman, donc, parvient à ce que les soldats qui vivent la guerre au quotidien se reconnaissent dans son texte.
Est-ce qu'on sait, par exemple, comment est-ce qu'il choisit les épisodes de Le Peuple est immortel? Parce que il y a quand même, par rapport aux grandes fresques qui viendront après, Stalingrad, qui voulait s'appeler Stalingrad et qui s'appelle Pour une juste cause, ou Vie et destin, sont beaucoup plus larges dans le temps, c'est-à-dire que ce sont des périodes beaucoup plus grandes. Ici, on est sur quelques semaines. Est-ce qu'on a des traces, justement, dans ces chroniques, qui pourraient être un peu un arrière-plan de ce qu'il choisit de décrire dans Le Peuple est immortel?
Oui, tout à fait. D'une part, voilà, l'action est effectivement très resserrée dans ce texte pour plusieurs raisons. D'abord, bon, la guerre n'a pas encore commencé véritablement depuis très longtemps, puisque, comme vous le rappeliez, l'URSS n'entre en guerre qu'à l'été 41. Et puis, il dispose donc aussi d'une durée très limitée. Il a 2 mois pour écrire ce roman, donc ce qui oblige aussi à concentrer beaucoup l'action. Et donc, il se fonde, je disais, en premier lieu sur le récit que lui a fait un commissaire, le commissaire Chliapine, qui lui a inspiré le personnage du commissaire Bogaryov dans Le Peuple est immortel, et donc qui lui a raconté comment il était sorti d'un encerclement. Et c'est cet épisode qui est au cœur du roman Le Peuple est immortel.
Alors Vassili Grossman choisit de raconter les faits au niveau des combattants et des civils, au niveau des humains. Ce qui l'intéresse dans la bataille, c'est les gestes, les attitudes. On vient de voir qu'au moins un des personnages est d'un décalque d'un de ces commissaires du peuple qui sont tout à fait réels. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, il met aussi en scène, mais sous un nom légèrement déformé, le commandant du front, donc, qui s'appelle Yeryomin dans Le peuple est immortel et Yeremenko dans la réalité. Et pour les autres personnages, on peut supposer qu'ils peuvent croiser certains traits de personnes réelles qu'il a rencontrées. Il y a certaines anecdotes qu'on peut retrouver dans les carnets de guerre, certains propos tout à fait anecdotiques, mais qui trouvent leur source dans ces notes consignées.
Par exemple, le commandant de char Babajanian, alors c'est un nom, on ne sait pas si c'est vraiment le même, mais en tout cas, c'est un nom qu'on va retrouver dans l'Union soviétique jusque dans les années 50, puisque c'est le même Babajanian qui dirige les chars qui vont prendre Budapest en 56. Donc c'est quand même déjà un nom qui aujourd'hui nous replonge dans un passé soviétique.
Alors effectivement, et c'est amusant avec ce Babajanian, parce qu'en fait, Grossman croit qu'il est mort au moment où il écrit ce roman et veut lui rendre hommage. En fait, il n'est pas mort. Il le recroisera plus tard et Paganini lui dira « Mais tu m'as tué !» Et voilà, et Grossman proposera de le ramener à la vie. Mais à ce stade, il ne l'avait pas encore rencontré, en fait. Il avait entendu parler de lui, mais il ne l'avait pas rencontré.
Un autre aspect important de Le Peuple est immortel pour l'œuvre et la vie de Grossman, c'est qu'il y mentionne, déjà donc en 1942, le destin de Berditchev, son village natal, dans lequel sa mère est restée. Et en réalité, si ce qu'on peut comprendre de la chronologie est exact, au moment où il écrit Le Peuple est immortel, sa mère est déjà morte.
Oui, sa mère est déjà morte. Sa mère est morte vraisemblablement en septembre 1941. Mais il ne le sait pas au moment où il écrit son roman. Bien sûr, il a l'intuition douloureuse qu'elle est probablement morte. Et dans le roman, il y a aussi une mère que son fils n'a pas réussi à convaincre de quitter son village, qui est assassinée par les nazis. Et voilà, le parallèle avec l'histoire de sa propre mère, dont il ne connaît pas encore le sort, est tout à fait clair.
J'aimerais qu'on parle avec vous de Vassili Grossman, qui a commencé par être un auteur tout à fait respecté et respectable.
Oui, tout à fait respecté, tout à fait respectable. Il avait les grands prix, enfin tout se passait vraiment très bien pour lui, jusqu'au moment où il a écrit un livre qui s'appelait « Vie et destin ». Il avait envoyé le livre à une maison d'édition, comme il faisait d'habitude, à une revue. La personne qui a reçu le manuscrit a alerté aussitôt la police. Donc la police est arrivée aussitôt chez lui parce que dans ce livre, il y avait quelque chose qui était absolument interdit à aborder. C'était ce thème absolument terrible du parallèle qu'on pouvait faire entre le nazisme et le stalinisme. Quand la police est arrivée chez lui, on a absolument tout confisqué, y compris évidemment le texte lui-même. On a confisqué les feuilles
carbone,
les carbones. Et même le rouleau de la machine à écrire. Et on lui a dit, de toute façon, ce livre paraîtra dans 200 ans ou il ne paraîtra jamais. Par chance, il y avait une autre copie. C'est-à-dire que, malgré tout, je pense que tous les écrivains de l'époque soviétique savaient quand même quand ils dépassaient la mesure par rapport à la censure. Donc, avaient quand même des copies un peu partout.
Claire Delaunay, nous voulons entendre l'éditeur et traducteur Michel Parfenoff évoquer le destin de Vie et destin de Vassili Grossman sur France Culture en 2005. Il est certain que Le Peuple est immortel et d'une toute autre nature quant à son rapport avec le régime soviétique.
Oui, c'est la raison pour laquelle probablement il n'a pas été réédité aussi pendant toutes ces années et pour laquelle il a aussi été écarté des projets de réédition de son œuvre pendant une longue période. Mais justement, c'est intéressant de pouvoir retracer tout son itinéraire d'écrivain. Et le Vassili Grossman de Vie et Destin ne vient pas de nulle part, et c'est d'autant plus intéressant de le lire quand on a aussi lu ce premier roman de guerre.
Alors justement, on peut pas dire pour autant, comme on a pu l'écrire pourtant par ailleurs, que Le Peuple est immortel est un texte stalinien ou qui ferait l'éloge de Staline. C'est loin d'être le cas.
Non, pas du tout. D'ailleurs, le nom de Staline n'est pas prononcé une seule fois, ce qui est déjà en soi une posture quand même qu'il faut noter. Et le commissaire Bogaryov se réfère à Lénine, mais jamais à Staline.
On reviendra tout à l'heure sur le destin de Bogaryov, qui est quand même voilà, le vrai héros du Peuple est immortel, qui peut rappeler par certains côtés, justement, d'autres personnages grossmaniens de Pour une juste cause ou Vie et destin. Mais est-ce qu'il y a déjà en germe dans Le Peuple est immortel, et qui devait être le cas d'ailleurs sans doute pour tous les récits publiés à l'époque soviétique, c'est la présence de la censure. Même pour un texte, ou peut-être surtout pour un texte publié sur la guerre et pendant la guerre, on voit dans les notes tout ce qu'il y a eu comme travail du censeur sur le texte.
Oui, c'est assez fascinant. Et parfois, on peut comprendre, disons, les raisons des censeurs. Parfois, ça paraît tellement anecdotique qu'on peut s'interroger.
On s'interroge vraiment, vous croyez, par exemple, il y a des choses si anecdotiques que ça? Non, on a l'impression qu'ils sont extrêmement attentifs à toutes les lettres du texte, jusque à la façon dont on a de présenter, par exemple, comment s'habillent les soldats, les adjectifs qui vont avec la description des uniformes, et ainsi de suite.
Effectivement, le moindre adjectif est traqué et effectivement, il faut vraiment faire attention à chaque petit détail.
Est-ce que c'est pas justement une des raisons du réalisme en réalité? Le réalisme au sens où la façon qu'on peut avoir de s'attacher très précisément à la réalité telle qu'on l'a vue, est-ce que c'est pas une façon aussi de se prémunir un peu contre la censure? En racontant des gestes, ou au contraire, est-ce que ça vous expose à cette censure?
Je pense que le réalisme de Grossman et cette attention, comme vous le disiez, aux gestes, aux postures, aux attitudes, etc., elle tient plus de vraiment sa poétique, où il donne à voir ses personnages dans leur présence physique aussi. Je pense pas que ce soit simplement pour se mettre à l'abri de la censure. Enfin, c'est pour donner à voir les choses de la façon la plus juste possible.
Alors avec aussi parfois une certaine emphase, page 190, on lit « Il est grand, le peuple dont les fils meurent saintement, simplement et gravement sur ces immenses champs de bataille. Le ciel et les étoiles les connaissent, la terre a entendu leur dernier soupir, les seigles non moissonnés et les bosquets au bord de la route ont vu leurs exploits. Ils dorment dans la terre, au-dessus d'eux le ciel, le soleil et les nuages. Ils dorment sûrement d'un sommeil éternel, comme leurs pères et grands-pères, après une vie de labeur, ces charpentiers, terrassiers, mineurs, tisserands, paysans de cette grande terre. Ils ont donné à cette terre tant d'efforts pénibles, parfois surhumains. » C'est un mélange entre un texte justement très soviétique, mais il y a aussi du Tolstoï justement derrière ça. Cette éternité de l'âme russe, comment est-ce que les générations après générations, le même combat finalement les anime encore.
Oui, c'est vrai qu'il y a certains passages dans le roman où on peut être un petit peu gêné par une emphase et un ton un petit peu, voilà, très solennel et soviétique, mais qu'on comprend tout à fait dans ce contexte d'écriture. Et oui, certainement qu'il y a un rapport aussi à Tolstoï dans voilà, l'écriture de cette page de l'histoire.
Est-ce que chez Tolstoï, on trouve comme ça aussi des moments dans ses descriptions des batailles où on s'arrête pour discourir sur voilà, qui se bat et de quelle façon et comment et pourquoi est-ce qu'ils se battent?
Oui, on trouve beaucoup de moments où on s'arrête chez Tolstoï et ça lui a d'ailleurs été reproché de tout temps, ces digressions, ces prises de recul où l'auteur discours sur la stratégie et le cours de l'histoire, on le trouve plus chez Tolstoï que chez Grossman, justement. Là, ce roman reste quand même globalement au plus proche de l'action elle-même.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Le vrai personnage, on va dire, héros de ce texte, il est collectif et c'est l'armée rouge elle-même, bien sûr, dans toutes ses composantes. Et justement, Grossman écrit « Les artilleurs œuvraient avec une méchante obstination, une passion effrénée. Leurs gestes coordonnés, unis dans une intention et un effort fraternel, exprimaient la puissance grandiose du travail collectif. Les individus, un géorgien maigre, distributeur, un tatar trapu, large d'épaule, pourvoyeur, un juif, manœuvre, un ukrainien aux yeux noirs, tireur, Morozov, le fameux maître pointeur, avait disparu. C'était un seul homme qui travaillait ici. Un seul homme qui travaillait, un seul homme qui combat, c'est un seul homme soviétique dont on voit l'énumération des différentes nations qui composent ce peuple immortel.
Oui, et c'est vrai que c'est important aussi de le souligner, c'est pas le peuple russe. Le peuple immortel, pour Grossman, c'est le peuple soviétique qui est pluriethnique. Et dans ce passage, on voit aussi que c'est le peuple uni dans un même travail. La guerre est aussi présentée comme un travail et comparée, mis sur le même plan que le travail agricole. Et voilà, ce rapport aussi au travail et qu'on retrouve aussi pour une juste cause avec le travail des ouvriers, le travail de l'usine et qu'on avait aussi dans ces romans de production d'avant la guerre, il est aussi central.
Alors, Le peuple est immortel, c'est donc une histoire de guerre, une histoire de combattants, de minuscules victoires dans une gigantesque défaite. Mais il y a une image finale, et à la fin, le commissaire donc du peuple et le soldat Ignatieff sortent comme ça du lointain, blessés mais survivants, ensanglantés, côte à côte, le soldat et l'homme du parti, deux frères liés à la vie, à la mort. L'union, en fait, ou la réalisation de cette union entre le parti et le peuple. C'est quand même un récit, un message.
Oui, bien sûr. En même temps, Grossman, donc, qui n'est pas un homme du parti, hein, qui n'a d'ailleurs jamais été membre du parti communiste, mais qui partage quand même certains traits, je pense, avec le commissaire Bogaryov. Il est le personnage de l'intellectuel, plutôt sympathisant des premiers révolutionnaires. Et qui parle aussi simplement aux généraux et avec les simples soldats, comme le faisait Grossman. Et ce personnage d'Ignatiev, d'ailleurs aussi, il est très intéressant. Enfin, c'est la figure idéale du représentant de ce peuple. Et là aussi, cette idéalisation du peuple, elle peut avoir quelque chose de tolstoïen. L'idéalisation du moujik chez Tolstoï peut ressurgir à travers ce personnage. Et il peut faire penser à d'autres personnages de simples soldats qu'on trouvera dans la littérature des années de guerre, et notamment le personnage de Vassili Tchurkin, du poème de Twardovski, qui lui joue de l'accordéon, alors qu'Ignatiev joue de la guitare. Mais voilà, on a avec ce type de personnage, effectivement, des figures de ce peuple ici immortalisées.
Alors Claire Delaunay, il faut nous dire quelque chose un peu, puisque vous avez eu les mains dans le cambouis, comme vous, Lavigne, avec le russe de Dostoïevski. Et alors comment est la langue de Vassili Grossman? Pour nous qui ne savons pas le russe, ça reste quand même un mystère. Comment est-ce que vous pourriez caractériser le russe de Vassili Grossman? Est-ce qu'il est très reconnaissable ou au contraire, est-ce qu'il ressemble à la langue de son époque? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier que vous auriez noté au moment de traduire? Est-ce que c'est difficile d'abord?
Oui, c'est difficile, mais je pense que tout auteur est difficile à traduire, après dire. Je pense qu'il est reconnaissable, oui. Qu'est-ce qui m'a marqué
Est-ce que si on vous mettait sous les yeux une page de Grossman, vous reconnaîtriez immédiatement? Bon, ne serait-ce que par le thème, évidemment, et puis les mots char, chenille de char, lance-roquette, et ainsi de suite.
Je n'oserais pas l'affirmer, mais je pense que c'est faisable, enfin que c'est possible. Il a une langue souvent très précise. Il n'hésite pas à faire des phrases très longues, ça, comme Tolstoï d'ailleurs.
Ah oui, d'accord.
Il y a des phrases parfois...
Ah, parce qu'au contraire, on dirait qu'un journaliste habitué au front et à l'écriture journalistique, au contraire, ferait des phrases plutôt très informatives et très courtes. Sinon, ce n'est pas le cas.
Il peut faire des deux, mais dans certains passages, dans certaines descriptions, il va pouvoir avoir des phrases très longues, avec beaucoup d'adjectifs, beaucoup de précisions... Et certaines descriptions, d'ailleurs, peuvent être aussi, même dans ce texte, avec ce dont on a parlé jusque-là, on ne le devine pas forcément, mais il y a des passages presque poétiques dans certaines descriptions de la nature, du ciel, de la forêt, où il est presque lyrique.
Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il lisait, Vassili Grossman? Quels étaient ses auteurs de prédilection? Il y a des passages, notamment dans... Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Il y en a un ou deux cités, mais très peu. En revanche, dans Stalingrad, pour une juste cause, et Vie et Destin, là, alors, il en cite beaucoup. Et puis, c'est des jeux comme ça dans les abris où on cite, on récite des poèmes. Est-ce que c'était aussi un grand lecteur, Grossman?
Oui, c'est un grand lecteur, et en particulier, justement, donc, de Tolstoï. Et c'est ce qu'il disait, que pendant la guerre, il n'avait lu qu'un seul livre, mais c'est Guerre et Paix, et qu'il l'avait relu deux fois pendant qu'il était au front. Et donc, effectivement, pour une juste cause et Vie et Destin, il y a beaucoup plus de discussions sur la littérature, et donc sur Tolstoï, mais aussi sur Tchekhov, qui est très important aussi pour lui. Ce qu'on ne retrouve pas dans ce roman. Mais...
Et pas tellement Dostoïevski. On le voit pas tellement Dostoïevski. Alors, est-ce qu'à l'époque soviétique, c'était
voilà.
à cause, voilà.
Oui, parce là, c'est que la période.
C'est la période qui fait que
Dostoïevski n'est pas du tout mis à l'honneur pendant la période soviétique, alors qu'au contraire, Tolstoï, ça a pu jouer sur sa réception par la suite, mais Tolstoï est érigé en modèle du réalisme socialiste aussi. Et donc, ce qui a pu conduire des auteurs à se positionner très fortement contre Tolstoï.
Ah oui, d'accord. Mais...
Chalamov, par exemple, est un farouche critique de Tolstoï, mais pour ces raisons aussi, précisément.
Alors, Emma Lavigne, est-ce que quand on traduit Dostoïevski, évidemment, on a un peu aussi sous les yeux la réception de Dostoïevski, c'est-à-dire non seulement son histoire en Russie, mais aussi les dizaines de traductions en Europe. C'est aussi s'attaquer à un monument qui a déjà une histoire et on est une traductrice de plus. Est-ce qu'on y pense au moment où on s'attaque au texte des frères Karamazov?
Oui, on y pense. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare. C'est quelqu'un qui est extrêmement traduit. C'est-à-dire qu'en français, cette traduction est, je crois, la dixième. Il y en a tout autant en anglais. Il y a eu, je crois, 9 ou 10 traductions en anglais, dont une cette année, une l'année dernière, 3 dans les années 90. Il y en a, pareil, 7 en chinois, 10 en japonais, on pourrait continuer. Donc c'est un auteur qui est extrêmement traduit. Et ça, c'est juste pour les frères Karamazov, évidemment. Donc on y pense, évidemment, et on s'inscrit là-dedans, et puis on en fait une autre.
Mais est-ce que c'est un avantage pour une traductrice, ou est-ce qu'on regarde ces 10 traductions? Je pense que la dernière en français, c'était celle d'André Markovitch, il y a une dizaine, douzaine d'années, peut-être
Un peu plus que peu ça, plus. Je crois que c'était en 2000. Donc,
ah oui, d'accord, ça fait déjà 20 ans.
Oui, pour ma part, oui, je les ai regardées, je les ai consultées, justement, parce qu'on s'attaque à quelque chose qui nous dépasse un peu. Enfin, en tout cas, je pensais que ça me dépassait peut-être. Et c'est très intéressant d'aller voir comment les uns et les autres ont abordé ce travail de traduction, ce travail sur les Karamazov. Après, c'est vrai que c'est des compagnons. Oui, en effet, on se sent moins seul aussi. Parfois, si on a des doutes, on a des tas d'autres versions qu'on peut aller consulter, regarder. Mais après, il faut savoir les laisser de côté, il faut savoir s'approprier le texte, parce qu'en fait, le vrai référent, c'est le texte original. Et il ne faut pas être non plus trop influencé par ce qui a déjà été fait. Il ne faut pas arriver avec trop de préjugés, je pense. Il faut se confronter au texte, et c'est au fur et à mesure de la traduction qu'on va véritablement comprendre l'essence du texte, en fait, et la façon dont il faut peut-être le rendre.
Eh bien, Smerdiakov, tu n'entres pas?
Vous souffrez toujours.
Oh, ça a été un coup effrayant. Et toi, comme tu es changé?
Depuis 2 mois, j'ai eu crise sur crise. On croyait à l'hôpital que je ne m'en tirerais pas. C'est ici qu'on l'a trouvé, le vieux Karamazov.
Là, devant l'icône. Étendu.
Mort?
Oui. On dit que, depuis sa condamnation, Dmitri est devenu un autre homme, qu'il pleure sur ses péchés.
20 ans de Sibérie, c'est dur.
Ah, le malheureux. Moi qui le lavais dans sa petite baignoire quand il était enfant. Il a osé. Ah, quand j'ai aperçu la fenêtre de Monsieur Grande ouverte, tout de suite le pressentiment m'a saisi. Je m'étais réveillé brusquement vers minuit, et me souvenant de n'avoir pas fermé à clé la grille du jardin, j'étais sorti. Au même instant, je vois une ombre à 40 pas environ, qui filait rapidement. Je m'élance pour lui couper la route, et j'atteins la palissade juste au moment où Dmitri l'escaladait. Oh, je l'avais bien reconnu. Je l'empoigne par la jambe en criant, mais il me déchargea sur la tête un coup si furieux que je lâchai prise et roulai à terre, inanimé. Quelques heures plus tard, on l'arrêtait.
Mais qui donc avait donné l'alarme?
Ma femme. Ne me voyant pas rentrer, elle est sortie à son tour. Elle a crié. Des gens sont venus. C'est alors qu'ils ont découvert le cadavre du maître. Et toi, le lendemain seulement, on t'a trouvé dans la cave, évanoui, l'écume aux lèvres, en proie à une effroyable crise d'épilepsie.
C'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Je ne m'en rappelle plus rien. Rien.
Pour nous mettre dans l'ambiance, nous venons d'entendre un extrait des frères Karamazov dans une dramatique de l'ORTF en 1965. On remarque immédiatement le côté, l'ambiance un peu thriller qui nous rend le texte très familier et malavide, mais c'est un raccourci quand même un peu étrange de la fin du dernier tiers des frères Karamazov.
Oui, on a tendance à raccourcir les Karamazov parce que c'est très très long et parce qu'il y a énormément de choses, mais en fait, quand on raccourcit finalement, on perd le sens, on perd énormément de choses avec Dostoïevski. Il y a énormément de détails. Alors, c'est pas des détails réalistes dans ce sens-là. On n'est pas dans du Balzac ou dans du Tolstoï, justement. Il y a très peu de descriptions. Mais il y a énormément d'éléments, d'informations, de jeux, de miroirs, etc. Et notamment des indices, parce que c'est véritablement un roman policier. Et il y a à l'intérieur des indices qui sont cachés pour parvenir à finalement peut-être, alors trouver le véritable tueur, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas à innocenter, je crois, ceux qu'on pense être les tueurs.
Emma Lavigne, il faut peut-être raconter justement aux auditrices et aux auditeurs ce qui se passe dans les frères Karamazov. En tout cas, l'argument général, qui sont-ils, ces frères Karamazov ?
Alors, ces frères Karamazov sont les fils d'un noble, on pourrait dire décadent et en tout cas dépravé, qui ne s'est pas occupé d'eux et qui va être assassiné. Et l'un de ses fils, tout accuse l'un de ses fils, et d'ailleurs, bon, alors je ne sais pas à quel point on peut raconter, à quel point on spoil.
On va essayer de ne pas spoiler, mais jusque-là, ça va. Voilà.
Bon, en tout cas, tout accuse l'un de ses trois frères, mais il faut savoir qu'il y en a un quatrième. On ne sait pas si c'est un frère ou pas. C'est un domestique.
Donc on pense que c'est un demi-frère probable, peut-être.
Peut-être, mais ça n'est pas dit dans le texte. Non. À aucun moment, on ne peut savoir si c'est véritablement un frère de sang ou pas. Et en réalité, c'est pas si important parce que ce que nous dit un personnage, alors Zosime.
On dira tout à l'heure. Le Starets, Zosime. C'est très important puisque le roman commence par lui, en quelque sorte, un peu une espèce de chapitre de présentation dont on va parler dans quelques instants.
Voilà. Mais et ce Starets nous dit, mais ça simplement, c'est pour ça, on a du mal à en parler parce que justement, ça part tout de suite dans tous les sens et on a du mal à avoir quelque chose de linéaire parce que Dostoïevski lui-même n'a pas une écriture vraiment linéaire, je pense. Et donc ce Zosime nous dit que de toute façon, vos domestiques sont vos frères. Donc c'est pas tellement important. Dans le fond, est-ce que c'est un frère de sang ou pas? Mais ça doit être un frère, tout simplement. Et ce Smerdiakov est celui que, si tout accuse Dimitri, pour le lecteur, tout accuse Smerdiakov. Voilà, ça c'est...
Oui, ce sont les deux, disons, les deux possibilités auxquelles que le lecteur, en tout cas, va chercher à démêler.
En tout cas, c'est ce que Dostoïevski lui propose. C'est l'évidence, on va dire.
C'est l'évidence. Même si après, le texte, petit à petit, se dément lui-même au fur et à mesure. C'est quand même aussi l'histoire d'une révélation par, justement, indices, morceaux. Donc, il y a plusieurs moments. Il y a un procès final de 300 pages. C'est une histoire d'une recherche d'une vérité, d'une double quête ou triple quête même.
C'est toujours la recherche de la vérité chez Dostoïevski. Je pense que ça, c'est un trait vraiment important chez lui. Lui aussi, d'ailleurs, on parlait de réalisme, du réalisme de Grossman. Dostoïevski aussi se définit comme un écrivain réaliste, mais dans un tout autre sens. Pour lui, justement, les descriptions ont très peu d'importance et il ne va pas chercher à reproduire le réel, à peut-être imiter le réel, mais à dire quelque chose de vrai Et il se disait, lui, écrivain réaliste, dans le sens où il allait chercher à décrire les profondeurs de l'âme humaine.
Alors, la clé de voûte du récit de cette fratrie, c'est évidemment le père. C'est par lui que tout commence, et c'est lui qui est l'objet de cet assassinat, donc il va devenir doublement l'objet du récit.
Voilà, oui, parce que vous demandiez tout à l'heure, donc, quelle est l'histoire des frères Karamazov. Si on résume vraiment, donc ce sont trois frères qui ont un père qui ne s'est pas occupé d'eux et qui se soucie avant tout de lui et qui est, on va dire, un dépravé et qui... très peu de respect pour les femmes, et un jouisseur. Et cet homme va être assassiné. Voilà, ça, c'est l'histoire. Mais l'histoire tient sur 6 jours et tout ça, ça fait 1600 pages. Donc, autant dire que finalement, cette histoire n'est presque qu'un prétexte et que le reste de la narration va partir un petit peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal finalement à résumer.
Mais alors, chaque frère Karamazov est un personnage complexe, mais on a quand même l'impression, alors sans doute vous, en le traduisant encore plus, que Dostoïevski les a construits et les a pensés en opposition les uns par rapport aux autres, ces frères. C'est-à-dire qu'ils sont complémentaires un peu. Tout ce que n'a pas l'un, c'est l'autre qui va l'avoir en partie, et ainsi de suite. Ils ne s'opposent pas directement, mais néanmoins, ils fabriquent un peu une image de ce que pouvait tout simplement être la diversité russe à l'époque.
Alors, est-ce que c'est la diversité russe? En tout cas, on a l'impression qu'ils fragmentent, en fait, l'être humain, finalement, voilà, en trois parties. Il y a l'instinct qui va être Dmitri. C'est ça, c'est le côté presque un peu animal qui existe chez l'être humain. On va avoir Ivan, qui est, lui, l'intellect, l'intellectuel. Et Alyosha, c'est le cœur. C'est le cœur et la morale et le bien, l'envie de faire le bien. Et c'est la bonté. Voilà.
Et là où le père, lui, était... Peut-être l'immoralité faite homme.
C'est l'immoralité incarnée, tout à fait. Et le père va avoir son double dans le personnage dont on parlait de Zosim, qui est donc le Starets, un religieux qui vit dans un monastère et qui est donc une figure importante de ce monastère. Et donc il va être le contre-pied exact du père dans le monde séculier.
D'ailleurs, le roman s'ouvre par une, enfin, c'est pas tout à fait le début, mais pas loin, par une entrevue qui est assez magistrale. C'est presque une première pièce de théâtre. On va voir tout à l'heure qu'il y en a encore peut-être une deuxième ou une troisième. Dans le monastère du Starets aussi, dans sa cellule même, chez lui, une espèce d'entrevue. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, mais une espèce de conciliation familiale, sous l'égide de ce saint, de ce religieux. Parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement, Starlet? C'est un vieux sage? Est-ce que c'est comme Starry vieux? Non, pas du tout.
La racine est certainement la même. Hein.
La racine est la même.
La racine est la même.
Au sens propre.
Oui, oui. Et le Starlet, en revanche, c'est... C'est une figure dans un monastère parmi les moines. Donc, le Starlet, c'est un ermite. Il vit... Oui, c'est ça. Il vit au sein d'un monastère, mais j'arrive plus à le...
Il vit dans un monastère, d'après ce qu'on comprend dans le roman, mais en même temps, il a à la fois une
c'est-à-dire
une
qu'à
fonction...
l'intérieur du monastère, il y a encore un ermitage, où vivent donc des moines, et le Starets est la figure, on va dire, d'autorité, finalement, à l'intérieur de cet ermitage.
Ah mais oui, pour eux, il est déjà saint. Il est sur le chemin de la sainteté.
Le chemin de la sainteté. Il est indispensable pour parvenir au salut de l'âme. Donc ça, c'est une branche. Alors même au sein du monastère, en revanche, il est critiqué. C'est une institution, nous explique Dostoïevski, qui est relativement nouvelle en Russie, ou en tout cas qui avait perdu beaucoup d'influence et qui renaît un petit peu au XIXe siècle. Et donc c'est une figure, ça va être quelqu'un à qui on remet, c'est comme ça que c'est décrit dans le texte, c'est quelqu'un à qui on remet finalement sa volonté. On abandonne toute volonté et c'est le Starets qui va devenir votre volonté, qui va dire ce que vous allez faire finalement. C'est une manière de contrôler son ego. Donc voilà.
Donc c'est un personnage qui a déjà une autorité, mais là, dans le roman, cette famille Karamazov et surtout le père le consultent pour des raisons qui sont plutôt... civils, en tout cas, comme on dirait aujourd'hui, qui n'ont pas tellement à voir avec la religion.
Tout à fait, ils viennent pour demander conseil. Alors, ça a à voir avec la religion, c'est comment agir de façon correcte, convenable, et comment agir dans le bien. Donc on va pour cela se référer à un religieux, à une personne capable de trancher ces questions morales.
Alors ce qui est très... amusant même, parce qu'il y a beaucoup de drôlerie là-dedans, c'est les descriptions de Dostoïevski, justement, de ces moines et de ces monastères, ces gens qui font leur salut, comme il le dit, et qui décrit de la façon suivante. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ben, ils se regardent dans le blanc des yeux et ils mangent du chou.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le père Karamazov qui dit ça, qui est quand même un personnage extrêmement drôle. Et oui, ben, il y a beaucoup d'humour hein, chez Dostoïevski, ça c'est certain. C'est un des aspects... On n'y pense pas. Hein. Quand on pense à Dostoïevski, on a tout de suite une image extrêmement sombre avec des criminels. Mais pour lui, l'humour est quelque chose de vraiment primordial. Donc, et on l'a même jusqu'au sein du monastère, ce qui pourrait paraître un sacrilège.
Oui, mais c'est vraiment très drôle. Est-ce que pour vous, au moment de traduire, justement, c'était un des défis ou une des choses qui vous guidait, au contraire, cet humour, cette possibilité d'essayer de le transcrire en français?
Ah oui, ça c'est toujours très important pour moi, de traduire l'humour et que l'humour passe dans la traduction, que ce soit pas perdu au passage. Ça, c'est vraiment très important, je pense.
Et est-ce que c'était possible?
Ben, je l'espère.
Non, en tout cas, moi, votre traduction m'a fait rire. Oui, bon. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, bon, là, il faut que je renonce, je ferai autre chose à côté. Mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment un humour très lié au langage.
C'est plutôt, ça, ouais. Voilà. Là où on peut dire je renonce, souvent, ça va être sur des questions des calembours, des jeux de mots, ce genre de choses. Il y en a quelques-uns. Peut-être que ça m'est arrivé de renoncer à quelque chose, mais je pense avoir gardé la plupart. Mais c'est pas vraiment là, c'est pas vraiment là-dessus que ça repose. On est plus dans le grotesque, dans l'outrance, dans des personnages un petit peu avec un côté ridicule, on va dire, quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est toujours un humour assez... Il y a quelque chose d'affectueux, finalement, là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font rire, mais ils nous deviennent sympathiques. Ce père qu'on décrivait comme absolument abominable, en fait, quand on lit le roman, mais il est extrêmement sympathique, il est drôle, il ne nous semble pas antipathique. Voilà.
Et justement, dans ce dernier roman de Dostoïevski, puisque c'est son dernier livre, il meurt un peu de temps après, d'ailleurs ce livre est publié en feuilleton, si je ne me trompe pas,
oui.
Juste avant la mort de Dostoïevski. Et on a l'impression qu'il fait presque briller ou scintiller un peu toutes les lumières et possibilités du roman dostoïevskien, justement, et aussi du christianisme, qui est un peu sa grande question. C'est-à-dire qu'on voit, donc il y a non seulement les moines, mais il y a aussi la façon dont on peut vivre sa foi au quotidien comme un des frères Karamazov. Qu'est-ce que c'est que la bonté? Qu'est-ce que c'est que la vie, la mort, la lumière, le mal? Et tout ça est présent à la fois dans cette trame de recherche d'un criminel. Et c'est ça qui rend le roman assez magique, justement. Ça.
Mais tout à fait, c'est ça le fond du propos, en fait. Dostoïevski utilise finalement une forme de littérature populaire, qui est le roman policier, mais pour faire passer des choses extrêmement importantes, graves. Il essaye de tout mettre dans ce roman, je crois. On retrouve... énormément de personnages qui existent déjà dans ses romans précédents et surtout des thématiques, tout est là, quasiment. Même si on a encore une fois que la moitié, on n'a que la première moitié, c'est-à-dire que le roman se tient en lui-même, mais il pensait écrire une suite. Donc on n'a pas toutes les clés, finalement, tout ne nous est pas donné. Mais toutes les thématiques sont là, tous les thèmes sont là.
Alors, il faut dire qu'il y a aussi des romans dans le roman, il faut parler un peu de ce moment très célèbre, le chapitre 5 du livre 5, ce poème écrit par un des frères Karamazov, qui est cette question du grand inquisiteur, qui a souvent même été séparé du roman pour le publier à part, et qui est effectivement très curieux, puisque là, on rentre dans un autre monde, qui est l'Espagne de l'Inquisition au XVIe siècle, une forme de parabole. Et est-ce que, pour vous, au moment de le traduire, c'était vraiment traduire une autre matière textuelle et se plonger dans autre chose que les chapitres précédents?
Il y a plusieurs matières, en réalité, dans ce roman. Pas seulement ici, mais c'est le cas, tout à fait. On le prend de manière un petit peu séparée. C'est un texte à l'intérieur du texte. Il y en a d'autres, en fait, donc ce poème. C'est pas un poème,
il l'appelle comme ça,
c'est ça. Mais bon, ça a un sens un petit peu différent, je dirais, en russe. Il a fallu une note de bas de page, justement. Mais c'est un miroir. Enfin, il est mis en opposition avec un autre texte à l'intérieur du texte, qui est la vie de Zosime. La vie de ce starets et finalement donc c'est un dialogue entre les deux sont des textes à l'intérieur du texte, on va dire. J'arrive pas trop à le formuler.
Oui, si, c'est des incises qui peuvent justement en être extraites. On peut, si on les saute, pour dire d'une façon un peu triviale, on se retrouve au même point dans l'avancée générale du roman. Il n'y a rien
tout
dedans.
Tout à fait. La partie 2, en fait, il y a un arrêt dans l'intrigue. Le temps est un peu suspendu et on a justement ces textes un peu étranges. Donc, le grand inquisiteur d'une part, et puis aussi le texte juste avant, c'est Révolte, où Ivan explique finalement pourquoi il refuse le monde tel qu'il est, pourquoi cette injustice, l'injustice du monde, lui semble injustifiable, justement. Et c'est une rébellion, une révolte contre Dieu. Et ensuite, donc, il y a ce poème du grand inquisiteur. Bon, comment l'interpréter, c'est peut-être un peu compliqué. Mais après, il y a la réponse donc, de Zosime, qui est « Oui, le monde est injuste, mais on peut y voir de la beauté et il faut simplement l'aimer tel qu'il est. » Finalement, c'est quelque chose comme ça, je pense. Et cultiver la bonté. C'est une théodicée, en fait, cette partie-là. Et on est vraiment au cœur du texte, parce que finalement, les Karamazov, donc c'est l'histoire d'un crime, etc., mais c'est surtout un roman sur la justice. La justice sur Terre et la justice au-delà, s'il y a un au-delà. Est-ce qu'elle est même possible au-delà, finalement?
Eh bien, ce que ça pile à part, n'est-ce pas? Je crois que c'est parce que il est véritablement un homme de théâtre. Il procède par dialogue, il procède par indication de mise en scène extrêmement précise, et la durée de ses romans n'a rien à voir avec la durée romanesque telle que, par exemple, Tolstoï l'a installée dans ses livres. C'est une sorte de temps par explosion, par raccourci, par condensation, et par conséquent, c'est le temps dramatique par excellence.
Nous voulons entendre Albert Camus en 1959. Est-ce que cette question du temps, Emma Lavigne, du rythme, elle vous est apparue aussi au cours de la traduction des Frères Karamazov?
Totalement, oui, oui, c'est vraiment quelque chose de frappant. C'est vrai que, oui, le temps chez Dostoïevski est totalement... comme le dit Camus, il y a des accélérations, des décélérations. Encore une fois, c'est un roman qui s'étale... C'est 1500 pages pour décrire 6 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Et en même temps, avec très très peu de description, donc il ne va pas perdre du temps à décrire, je ne sais pas, une table, un chapeau, etc. Mais le narrateur est en même temps tout le temps pressé. Il n'a jamais le temps ni l'espace pour dire tout ce qu'il a envie de dire. Donc ça, c'est une dimension très importante, en effet. C'est aussi dans le rythme de la narration, on va avoir ces phrases extrêmement longues, mais encore une fois très précipitées, avec énormément d'informations à l'intérieur. Et il faut que tout ça, ça c'était une des difficultés, je pense, à la traduction, il faut que tout ça soit fluide, parce que ça coule, le lecteur doit être emporté. On ne peut pas revenir en arrière quand on a une phrase qui fait une page, il faut tout comprendre d'un coup, il faut être emporté par ce flot.
Emporté par ce flot et même emporté presque vers l'au-delà, parce que c'est aussi la question eschatologique, c'est une des vraies questions qui hante, on le sent, Dostoïevski et ses personnages. Est-ce qu'en cela, c'est une question de l'époque? Et là, je m'adresse à toutes les deux, Claire Delaunay et Malavigne. Est-ce que, parce que Tolstoï, par exemple, en 1880, au même moment, il décide de vivre en paysan, il passe, dit-il, du nihilisme à la foi. Est-ce que c'est vraiment juste ça habite ça la société russe de l'époque, cette question du bien, du mal et de la foi?
Oui, ça habite tout à fait, l'époque, et je pense surtout à un troisième nom, un contemporain de Tolstoï et Dostoïevski, que Dostoïevski découvre justement au moment où il finit les Karamazov, qui est Nikolaï Fiodorov, et toute la réflexion sur l'immortalité qui est présente à la fin des Karamazov, elle est reliée à cette découverte de la pensée de ce philosophe qu'on peut aujourd'hui aussi lire en français, d'ailleurs. Bon, juste sur Tolstoï, il n'a quand même pas vécu tout à fait comme un paysan. Hein,
mais... Non, mais moi, j'aime bien l'imaginer comme ça, avec ces espèces de chemises paysannes là, qu'on voit sur les photos.
Il allait faucher avec ses paysans, voilà, mais il habitait toujours dans son domaine. Et...
Ouais. Dostoïevski, lui, il avait une vie beaucoup plus, finalement, matériellement plus compliquée quand même. En tout cas, à l'époque où...
Pendant longtemps. Au moment des Karamazov, ça va mieux quand
c'est
même.
C'est un écrivain célébré, apparemment. Oui. Il était extrêmement célèbre. Oui. Emma Lavigne, quel est votre regret? Est-ce qu'il y a quelque chose, quand on... Il doit y en avoir beaucoup quand même, quand on traduit 1500 pages. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est apparu comme une difficulté très grande, pas forcément insurmontable, mais peut-être dont vous vous souvenez en vous disant, oui, ça, dans l'ensemble, c'est vraiment peut-être le plus difficile.
Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, il fallait m'arracher à chaque étape, littéralement, le texte des mains. Je pense que si je l'avais encore entre les mains, il est possible que je serais encore en train de le retravailler. C'est sans fin, hein, la traduction. Mais l'écriture, peut-être, hein, de manière générale, le travail sur la langue. Est-ce que j'ai un regret particulier? Je ne sais pas. Non, ça sera peut-être.
Et est-ce que ça vous a donné envie, justement, parce que quand on commence une œuvre par la fin, finalement, de revenir en arrière et d'en traduire d'autres, vous êtes dit, ah, j'aimerais bien, ou au moins de les lire en russe, ou de les connaître bien, ou de profiter à nouveau de cette langue dont vous avez vu finalement le moment terminal.
Mais oui, c'est-à-dire que c'était très compliqué d'aborder Dostoïevski par les frères Karamazov. Mais ça donne quand même énormément de clés. Donc, quand on se repenche sur les romans précédents, on a une boussole déjà et on voit beaucoup plus où l'on va. Alors que pour la traduction des frères Karamazov, ça a été assez terrible. Là, il y avait quand même l'impression d'avancer dans le brouillard quasiment jusqu'à la fin du roman. C'était assez difficile.
Et vous, Claire Delaunay, alors ça, c'était peut-être une de vos premières expériences de traduction d'un ensemble assez important. Est-ce que ça vous a donné envie de traduire d'autres livres ? Au contraire, pas du tout.
Alors en fait, c'est la première traduction qui est publiée, mais j'étais sur d'autres chantiers en même temps, donc
d'accord.
qui doivent sortir l'année prochaine ou celle d'après.
Par exemple ?
Alors, un texte presque contemporain de celui-ci, mais d'un auteur dont le profil est tout à fait à l'opposé de celui de Grossman. C'est un Russe émigré qui était dans un petit village au bord du Cher pendant la Seconde Guerre mondiale et donc qui a laissé un texte intitulé « Dans une bourgade paisible de France ». Et donc voilà, ça a été un des premiers textes que j'ai traduit intégralement, mais qui doit paraître un peu plus tard. Et puis les écrits politiques et religieux de Tolstoï avec Luba Jurgenson également, qui sont encore en cours d'édition.
Magnifique. Merci beaucoup Emma Lavigne. Merci beaucoup Claire Delaunay. Emma Lavigne, je rappelle que vous avez traduit les frères Karamazov dans la magnifique collection Littera des éditions Gallmeister et que vous, Claire Delaunay, vous avez co-traduit avec Luba Jurgenson Le peuple est immortel de Vassili Grossman aux éditions Kalman-Lévy. Cette conversation littéraire était réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Philippe Thibault à la technique aujourd'hui. La préparation en était assurée par Aurélie Marseille. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et sur notre site web.